VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 30 novembre 2016 en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Début à Sikasso au Mali du procès des prévenus dans l'affaire des bérets rouges.
En République démocratique du Congo, libération du secrétaire général adjoint de l'UDPS, Bruno Tshibala, hier soir à Kinshasa.
Le Rwanda ouvre une enquête sur le rôle de 20 responsables militaires français dans le génocide de 1994.
En Gambie, Yahya Jammeh interdit toute manifestation après la présidentielle de jeudi.
Syrie, réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU qui condamne la descente aux enfers vécue par les civils à Alep-Est.
Ici aux États-Unis, nomination de deux autres membres du futur cabinet de Donald Trump, mais rien pour le moment sur le prochain secrétaire d'État américain.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, début aujourd'hui à Sikasso du procès de l'ex-chef des putschistes, Amadou Aya Sanogo, et de ses 16 co-accusés. Ce procès porte sur l'affaire de 21 bérets rouges disparus en 2012. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Le parquet a pris plusieurs dispositions pour la bonne tenue de ce procès. Devant la cour composée de 3 magistrats professionnels et 4 assesseurs, il y aura 17 accusés, dont 6 pour enlèvement et assassinat, 2 pour complicité d'assassinat, dont les généraux Yamoussa Camara et Dairou Damélé, respectivement ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'armée malienne au moment des faits. Les 9 autres sont accusés de complicité d'enlèvement et d'assassinat. Parmi eux, Amadou Aya Sanogo, Blongoro Samake, Simeon Keita, Oumar Sanogo Dikifkif, Seiba Diara, Christophe Damélé, Amadou Konare, Mohamed Issa Ouedraogo et Ibrahim Bouakoni. L'accès à la salle d'audience est conditionné à une accréditation pour tous les participants au procès. Aucun appareil photo, caméra, dictaphone ou autre moyen de communication ne sera utilisé dans la salle. La télévision nationale du Mali sera là pour la cérémonie d'ouverture. Une équipe fera des images, mais qui seront mises à la disposition des archives nationales du Mali. La principale préoccupation des avocats de la défense à l'ouverture est la demande de report. Pour vice de forme, disent-ils dans l'organisation du procès. Auront-ils gain de cause la réponse à l'ouverture de la session supplémentaire? Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le chef de l'État gambien, Yahya Jammeh, a déclaré mardi que toute manifestation serait interdite après l'élection présidentielle de jeudi, au moment où la capitale Banjul connaissait d'importants rassemblements en faveur du leader de l'opposition Adama Barrow. Des manifestations ont été exceptionnellement autorisées au cours de la campagne électorale qui a duré 2 semaines et s'est achevée mardi. Jeudi, environ 890 000 Gambiens sur quelque 2 millions d'habitants sont appelés à choisir leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour.
En République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Bruno Tshibala, a été libéré hier soir à Kinshasa. Arrêté le 9 octobre dernier à l'aéroport international de Ndjili, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Bruxelles, puis transféré 3 jours plus tard à la prison centrale de Makala, il a donc recouvré sa liberté après 51 jours de détention. L'un de ses avocats, maître Peter Kazadi, joint par Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, salue la libération de son client.
C'est juste qu'on a avancé les motifs des droits aujourd'hui devant les tribunaux pour démontrer au tribunal que notre client ne méritait pas d'être en détention, d'autant plus qu'il n'y a pas d'indice sérieux de sa culpabilité et que sa fuite n'était pas à craindre. Et le tribunal nous a suivi dans notre plaidoyer, ce qui a fait qu'on l'a placé sous un régime de main levée de la détention, c'est-à-dire que l'instance peut se poursuivre, mais lui en étant en liberté. Le tribunal va prononcer l'affaire au fond. Nous en sommes encore au niveau des, je dirais, préalables et nous attendons voir la suite de la procédure. L'opinion, c'est que c'est injustement que Bruno Tshibala ait été incarcéré. Aujourd'hui, la justice congolaise lui a fait droit et nous souhaitons que les mêmes mesures soient étendues à tous nos militants, tous nos combattants qui se trouvent aujourd'hui en détention.
Toujours en RDC, les jeunes du PPRD, parti du président Joseph Kabila, lancent une campagne d'appel au calme en attendant la tenue des élections. Une réponse à la campagne Bye Bye Kabila que des mouvements citoyens et l'opposition ont démarré le week-end dernier. Précision d'Eddy Issangou.
La campagne de jeunes kabilistes a pour nom « Tous pour les élections apaisées ». Ses animateurs sensibilisent pour que les Congolais ne détruisent pas les pays à la date du 19 décembre 2016, car des élections ne pourront pas être organisées à cette échéance. Le secrétaire national du PPRD, chargé des propagandes, Christophe Colomoni.
La jeunesse du PPRD a décidé de lancer une campagne d'appel à la paix de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Il y a une partie des compatriotes qui pensent que si j'enlève les élections, les élections ne sont pas c'est le chaos, c'est l'hécatombe chez nous. Nous disons non. Sommes-nous en droit de pouvoir se lever toute une nation, de la baisser dans des violences pour vivre puisque la fonction n'a pas été respectée. D'autant plus que les soupçons qui pèsent sur les chefs de l'État n'ont jamais été prouvés par personne. Lui-même n'ayant jamais dit à qui pense qu'il pourra déloger à la Constitution. Il l'a dit, il continue à le répéter que la Constitution sera respectée.
De leur côté, les mouvements citoyens estiment que reporter les élections et maintenir le président Kabila en place est une violation de la Constitution.
Le Rwanda a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables militaires français dans le génocide de 1994. Les précisions de John Lyndon.
Selon un communiqué du procureur général Richard Mhumuza, l'enquête porte sur 20 personnes pour permettre de mieux comprendre leur rôle dans le génocide et décider si elles seront poursuivies ou pas. Le communiqué qui cite nommément plusieurs hauts gradés français souligne qu'au fur et à mesure des enquêtes, d'autres agents ou fonctionnaires français pourraient être appelés à assister l'organe de poursuite judiciaire. Le Rwanda souhaite que Paris coopère à cette enquête. L'avion du président Juvénal Habyarimana, allié de la France, a été abattu le 6 avril 1994, ce qui a servi de déclencheur du génocide. Depuis, même les boîtes noires de l'avion font l'objet d'une longue guéguerre entre Kigali et Paris.
Ouverture hier à Abidjan d'une grande rencontre sur les nouvelles technologies de l'information. Entre 8000 et 10 000 personnes prennent part à l'Africa Web Festival qui se termine demain jeudi. L'objectif, la promotion de l'économie numérique et l'enseignement des nouvelles technologies sur le continent. Les détails avec Abdourahmane Dia.
L'initiatrice du forum, Mariam Si Diawara, explique qu'il s'agit là d'une plateforme de discussion, d'information, de formation autour du numérique et de faciliter les échanges d'idées et d'expériences. Ce festival accueille plusieurs entreprises et de jeunes entrepreneurs passionnés par le digital et des programmeurs à la recherche de nouvelles opportunités. Plusieurs entreprises africaines sont venues présenter leurs produits innovants en espérant décrocher de nouveaux clients ou des marchés. Bruno Koné, porte-parole du gouvernement ivoirien, en ouvrant la rencontre, a estimé que le continent pouvait combler son retard grâce à l'économie numérique qui représente 7 à 8% du PIB et 200 000 emplois en Côte d'Ivoire. Il a assuré que quand on n'a pas les moyens de construire des routes, c'est le bon moment pour construire des autoroutes de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire tente de s'imposer comme un leader du numérique en Afrique subsaharienne et dans le même temps essaie de faire face au phénomène des brouteurs, hackers et tout le système d'arnaque sur Internet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu a nommé deux autres membres de son cabinet, dont un farouche détracteur de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie du président Barack Obama. Il s'agit du député républicain Tom Price de Georgie, au poste de secrétaire à la santé et aux affaires sociales. L'ancienne secrétaire au travail, Ellen Chao, est le choix de M. Trump pour le département des transports. Elle est mariée au chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell. Aucune décision pour le moment sur le poste de secrétaire d'État. Donald Trump a eu un dîner hier avec Mitt Romney, un de ses plus grands détracteurs pendant la récente campagne. Parmi les autres candidats, le républicain Bob Corker, président de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, et l'ancien général David Petraeus, ex-directeur de la CIA.
Toujours aux États-Unis, le groupe manufacturier américain Carrier, qui prévoyait de délocaliser 1400 emplois, a annoncé hier qu'il allait préserver 1 000 000 d'emplois à Indianapolis grâce au président élu Donald Trump. Ce dernier avait fait aussi campagne sur cette question. Carrier est basé dans l'Indiana, dans l'État dont le futur vice-président Mike Pence est gouverneur. Et puis, l'ONU condamne la descente aux enfers vécue par les civils à Alep-Est, où des milliers d'entre eux fuient les combats et les bombardements à mesure qu'avancent les forces du régime syrien face à des rebelles aux abois. Selon des diplomates, une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU, réclamée par la France, qui dénonce une catastrophe humanitaire, se tiendra ce matin à New York. L'armée syrienne et les milices qui la soutiennent se sont emparées de plus de 30% d'Alep-Est ces 3 derniers jours.
Une enquête internationale a révélé l'existence présumée d'une filière impliquant l'Iran et passant par la Somalie pour armer les rebelles houthis au Yémen. Le rapport du Conflict Armament Research, basé en Grande-Bretagne, se fonde sur des saisies d'armes effectuées en mer en février et mars 2016 à bord d'embarcations traditionnelles. L'Iran a toujours démenti les accusations saoudiennes et américaines sur ses fournitures d'armes aux rebelles chiites.
L'État islamique affirme que l'assaillant de l'Ohio était un de ses soldats, Abdulrazak Ali Artan, identifié comme un étudiant d'origine somalienne de l'établissement visé dans le nord des États-Unis, a blessé lundi matin 11 personnes, dont une grièvement, en percutant un groupe de piétons en voiture avant de sortir de son véhicule pour agresser les passants. Et il était armé d'un couteau de boucher.
Enfin, en Colombie, l'accident d'avion qui a décimé hier l'équipe de football brésilienne de Chapecoense a aussi tué 20 journalistes sportifs de ce pays, des commentateurs chevronnés comme des jeunes reporters venus couvrir la finale de la Copa Sudamericana. La chaîne Fox Sports Latin America, qui retransmet en exclusivité les rencontres de cette coupe, a confirmé que 6 de ses employés avaient été tués dans l'accident qui a fait 71 morts. L'un d'eux, Mario Sergio, était un célèbre commentateur de radio et ancien international brésilien. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Morgane Guériec.
Le Africa Web Festival se poursuit jusqu'à demain en Côte d'Ivoire. L'événement rassemble des entreprises investissant dans le numérique et des startups utilisant les nouvelles technologies. Des rencontres express de speed jobbing sont organisées entre employeurs et candidats. Nouveau remous pour Sébastien Adjavon au Bénin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel a mis sous scellé plusieurs médias, dont ceux de l'homme d'affaires, Soleil FM et Sika TV. C'est ce que rapporte Jeune Afrique. A noter par ailleurs que le candidat à la dernière présidentielle a été réélu à la tête du patronat, malgré son interpellation le mois dernier, après la découverte de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société. Sachez enfin que Volkswagen va assembler des voitures en Algérie. Le groupe allemand ouvrira une usine l'année prochaine à Rélizane, à 200 km à l'ouest d'Alger.
À présent, les sports avec Jean-Roger Bion. On a fait mention dans le journal, le football sud-américain est en deuil.
En effet, à cause de cet accident d'avion qui a fait 75 morts, l'Atlético Nacional, qui devait affronter le club de Chapecoense en finale de la Copa Sudamericana, a demandé que le trophée soit attribué au club brésilien, dont la plupart des joueurs ont péri mardi dans ce crash près de Medellín en Colombie. L'Atlético Nacional demande à la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, que le trophée soit remis au club de Chapecoense à titre honorifique, en hommage posthume aux victimes, écrit le club colombien dans un communiqué.
Suite du tournoi de l'UEMOA au Togo.
Au stade Kégué, le Burkina a disposé de la Guinée-Bissau 1-0 dans le groupe B et le Sénégal et le Bénin se sont quittés sur un score nul, 0 but partout. On attend aujourd'hui les duels Mali-Côte d'Ivoire et Niger-Togo.
Parlons également de la CAN féminine 2016, les demi-finales ce mardi.
Le pays organisateur, le Cameroun, se qualifie pour la finale en battant le Ghana 1-0. Le Cameroun affrontera les championnes d'Afrique en titre, les Nigérianes, qui ont battu les Sud-Africaines sur le même score, 1-0.
NBA, championnat de basketball nord-américain, les résultats.
Détroit a battu Charlotte 112-89. Los Angeles Clippers a concédé une défaite devant les Nets de Brooklyn, 122 contre 127. Cleveland s'est incliné devant Milwaukee, 101-118. Los Angeles Lakers s'est incliné devant les Orleans Pelicans, 88-105. Orlando a battu San Antonio, 95-93. Houston s'est incliné devant Utah, 101-120.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La démocratie en République démocratique du Congo était en question hier à Washington et Fred Bauma, l'un des leaders de la lutte pour le changement en RDC, était en visite pour témoigner devant le Congrès américain lors d'audiences publiques sur les droits de l'homme et la démocratie devant la commission Tom Lantos des droits de l'homme du Congrès américain. Le jeune militant appelle au respect de la Constitution dans son pays. Nicolas Pineau a rencontré Fred Bauma. On l'écoute.
Le premier message, c'était de faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme et de relever le fait qu'il y a une grande répression sur les activistes pacifiques et sur l'opposition et que l'espace politique est de plus en plus rétréci. L'autre chose, c'était de parler du processus électoral et des prétextes qui sont souvent présentés pour ne pas organiser les élections, notamment le manque d'argent, et de relever les liens entre ces prétextes et le pillage, le détournement des ressources qui engagent parfois certaines personnes proches du gouvernement. Et aussi de demander plus de sanctions de la part du Congrès et du gouvernement.
La date du 19 décembre arrive, il n'y aura pas d'élection d'ici cette date, il n'y aura pas de nouveau président d'ici cette date. Que vous inspire cette date du 19 décembre ?
C'est une date importante, probablement l'une des plus importantes depuis la date de l'indépendance. Et je pense, comme je l'ai dit ce matin au Congrès, que le président Kabila a encore l'occasion, avant cette date, d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Et ce que moi je pense et ce que je lui demande de faire, c'est d'annoncer publiquement qu'il ne se représentera pas, d'annoncer publiquement qu'il se retirera et de privilégier la voie de la paix plutôt que de prévoir des répressions et des manifestations qui n'avancera pas forcément notre pays. J'ai l'espoir en un Congo meilleur et j'ai l'espoir qu'on peut tous privilégier notre fibre patriotique plutôt que des intérêts personnels et aller de l'avant. Évidemment, si rien n'est fait, le Congo va vers une grave crise et personne ne veut voir cette option-là. C'est pourquoi, pour autant qu'on peut sauver le pays, il faudrait qu'on le fasse et il faut qu'on le fasse maintenant.
Comment analysez-vous vos 17 mois passé en détention et votre lutte pour faire entendre le changement en République démocratique?
Les 17 mois en prison ont été des mois très difficiles pour moi, pour ma famille et pour mes amis. Et c'était une grande injustice que j'ai subie pendant cette période-là. Je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la même situation au Congo, qui sont en prison pour rien du tout, parce qu'ils se sont exprimés. Mais ces 17 mois ont aussi été des moments importants pour moi pour regarder le Congo différemment, pour vivre de près la situation de la pauvreté, l'absence de l'état des droits, de l'injustice dans tous ses sens, et revoir comment il faut agir pour être plus efficace et faire avancer le pays.
Filimbi, Lucha, tous ces mouvements continuent. Vous êtes quoi? Vous êtes des idéalistes
Peut-être qu'on est des fous, peut-être qu'on est des idéalistes ou des emmerdeurs, mais on est surtout des Congolais qui croient en un avenir meilleur pour leur pays. On est surtout des Congolais qui ne veulent pas voir leur pays sombrer dans la violence, dans la misère, une fois de plus. On est surtout des Congolais qui sont guidés par cet amour profond pour de valeurs républicaines, cet amour profond pour la liberté, pour la justice sociale, pour la dignité humaine. Et on est ces jeunes-là qui refusent de vivre une fois de plus la dictature.
Fred Bauma, l'un des leaders de la lutte pour le changement en République démocratique du Congo.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
La Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun permet de se mobiliser en dehors du terrain pour lutter contre les mariages précoces. À l'occasion de ce temps fort du foot, des efforts sont déployés pour sensibiliser les chefs traditionnels dotés de plusieurs épouses, dont certaines ne sont que des adolescentes. Morgane Guériec.
Durant la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, plusieurs groupes de danse profitent de leur spectacle pour témoigner leur solidarité envers Awa, 19 ans, qui a été forcée de se marier à un chef traditionnel à 14 ans.
J'ai été mariée trop tôt parce que mes parents étaient pauvres et parce qu'ils ne voudraient pas abandonner la tradition. J'étais déprimée, stressée, parce que je n'étais pas prête pour assumer les responsabilités du mariage. J'ai eu un enfant, alors que moi-même, je n'étais qu'une enfant.
Dans la foule, Joseph Kameni, chef traditionnel de Bassap, une localité de l'ouest du Cameroun. Il est marié à 24 femmes.
Une chefferie où il n'y a pas beaucoup de femmes, ça veut dire qu'il n'y aura pas suffisamment de monde. Plus il y a beaucoup de monde, c'est plus la chefferie devient très solide. 40, 30 quelque chose de femmes. Mon grand-père avait 36 femmes.
Le roi Kameni dit compter sur sa grande famille pour nourrir ses épouses et ses centaines d'enfants. Au Cameroun, il est très fréquent de voir les chefs traditionnels se marier à beaucoup de femmes. Et du coup, les organisations non gouvernementales, le gouvernement, les Nations Unies et l'Union africaine ont décidé d'utiliser la Coupe d'Afrique des Nations pour soulever des préoccupations, notamment le sort des adolescentes contraintes de se marier. Selon Barbara Sow, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Cameroun, l'organisation met en œuvre des programmes pour protéger les adolescentes.
Il y a deux stratégies. D'abord, les groupes d'hommes se réunissent pour tenter de déterminer comment les hommes entre eux peuvent discuter de ces filles mariées à 13 ou 14 ans. En tant que chef de famille, en tant que père, ils prennent les meilleures décisions pour eux-mêmes, pour leurs épouses et pour leurs enfants. Très souvent, les individus sont prêts à prendre une décision, mais ils estiment que la pression de la société est trop grande.
Kosa Sana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, a assisté à la cérémonie pour encourager une lutte continentale contre les abus sur les droits des femmes et des filles. L'agenda 2063 de l'Union africaine plaide pour un effort concerté vers l'arrêt d'ici 2020 des mariages des enfants, des mutilations génitales féminines et autres pratiques culturelles néfastes. En attendant, le nouveau code pénal camerounais s'oppose au mariage multiple en réservant des peines d'emprisonnement pour les conjoints adultères et en augmentant le coût de prise en charge des familles nombreuses.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
Au Burundi, les propriétaires de taxis vélo à Bujumbura s'insurgent contre la mesure de la mairie de porter un gilet qui coûte 13 000 francs, soit environ 9 dollars. Le vélo, qui peut rapporter 2 à 3 000 francs par jour, est largement utilisé comme moyen de transport. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kurunziza.
La majorité de plus de 700 000 habitants des quartiers de la capitale, souvent pauvres, se déplacent par vélo quand ils se rendent en ville faire leurs activités quotidiennes. Nombreux sont ceux qui utilisent le vélo comme moyen de transport. Cet habitant du quartier Biza au centre-ville de Bujumbura indique que le taxi-vélo a une grande importance dans sa vie. Il affirme qu'avec son maigre salaire, c'est le moyen de transport qu'il utilise souvent comparativement à ses rentrées mensuelles.
Le bénéfice du taxi-vélo, c'est que d'abord, c'est plus ou moins cher. Il peut se rendre même là où le bus ne peut pas arriver. Là où tu allais payer même 2000 francs pour un taxi-véhicule. Quelque part, alors, on gagne. Alors, il y a aussi le temps. Le taxi-vélo, tu le trouves près de chez soi. Vous gagnez aussi sur le temps.
Mais ce conducteur d'un taxi-vélo qui a une famille à l'intérieur du pays et qui envoie mensuellement de l'argent indique que ce qu'il paie pour le gilet vient contrecarrer leurs projets et les rendre encore plus pauvres.
Cette mesure est venue nous contraindre dans l'exercice de notre métier. Cet argent que l'on nous demande, on ne peut pas l'avoir par jour, même par semaine. Au moins, si nous avions fait une réunion entre responsables, on aurait fixé une taxe consensuelle et il n'y aurait pas eu de problème.
Même cri de désespoir pour cet autre conducteur de taxi-vélo.
Je fais un versement quotidien de 1000 francs burundais alors que je gagne 2 ou 3 000 francs que j'utilise pour la restauration. J'économise 1500 ou 2000. Imaginez-vous quand nous allons commencer à payer les plaques et autres. Ce sera très difficile pour nous.
Selon leur témoignage, les conducteurs de taxi-vélo affirment qu'ils sont obligés de payer l'argent aux policiers rencontrés. Mais pour la police, les conducteurs de taxi-vélo traversent des quartiers et zones où ils sont interdits d'accès et payent des amendes, comme le stipule la loi. Pierre Mouriquier, porte-parole de la police.
Ils sont interdits d'accès au centre-ville. Et quelqu'un qui dépasse le périmètre interdit peut se voir infliger des mesures légales et conséquentes. Quant à l'accusation en rapport avec la corruption, s'il y a l'un ou l'autre policier qui s'adonnerait à une telle corruption, nous invitons les victimes à dénoncer pour que des mesures légales soient prises.
Il est à noter que le métier de conducteur de taxi-vélo fait également vivre des milliers de citoyens à Bujumbura et à l'intérieur du pays qui luttent quotidiennement pour leur survie. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les partisans de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide en Haïti, mécontents de la défaite humiliante de leur candidate Maryse Narcisse à la présidentielle du 20 novembre, ont organisé des manifestations violentes hier mardi à travers Port-au-Prince. Aucune victime n'a été signalée, mais selon l'agence Reuters, des coups de feu pouvaient être entendus dans certains quartiers. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui brûlaient des pneus et menaçaient d'attaquer des établissements privé. Gabi Dorsil a joint le journaliste Tom Dumont.
Ils dénoncent ce qu'ils appellent un coup d'État électoral. Ils promettent de contester les résultats par devant le BCEN. Pour une énième fois, les partisans du parti Navalas étaient dans les rues de Port-au-Prince. Dans plusieurs zones, il y avait des enflammés. Les partisans du parti Famille Navalas qui ne veulent pas perdre, qui n'acceptent pas leur défaite. Alors que Maryse Narcisse, candidate à la présidence sous la bannière du parti Navalas, est quatrième selon les résultats préliminaires du CEP. Elle a obtenu 96 121 voix, soit 8,99%. La réaction du parti Navalas, il a chillé un louis d'or qui intervenait incessamment sur les ondes de signal et qui a annoncé la couleur.
Selon les responsables du parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, il faut s'attendre à des réactions violentes pendant les jours à venir?
Justement, ils disent que le pays sera ingouvernable. Il n'y aura pas effectivement d'investissement étranger et que la vie en Haïti ou bien à la capitale haïtienne sera difficile.
Quel est jusqu'à présent le comportement des autorités, la police par exemple?
Il y a de cela 24 heures, le président provisoire, Jean-Claude Guibert, avait préconisé la stabilité. Malheureusement, on a annoncé un climat de violence au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Jusqu'à aujourd'hui, la police réprimait en quelque sorte, pas de manière violente, mais réprimait les manifestants qui voulaient semer la pagaille au niveau de la capitale haïtienne. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, à la personne de Saint-Paul Léger, il donnait la garantie que tout allait se passer bien. On a annoncé depuis avant-hier qu'on allait incendier les espaces de plusieurs médias et assassiner des journalistes.
Vous autres de la presse, vous sentez-vous menacés?
Ben justement, puisqu'il est question d'assassinat, il est question de menace. Et d'ailleurs, l'un de nos confrères, un caméraman, il a été agressé. Les manifestants, les partisans de Navalas, ils ont les goignes contre les médias. Et je dirais, ils ne sont pas bien vus par les Navalasiens.
Si je comprends bien, ces manifestations violentes ont été organisées uniquement par les partisans de Jean-Bertrand Aristide et de Maryse Narcisse, mais pas de Jules Célestin qui pourtant est arrivé en deuxième position, ou de Moïse Jean-Charles qui a été classé troisième.
Ben, Jules Célestin ne parle pas, mais il y a l'avocat du Parti La Paix qui entend contester les résultats par devant le BCEN, c'est le bureau de contentieux électoral national. Il y a également le parti de la plateforme Tout-Suite des Salines, il y avait Moïse Jean-Charles comme candidat à la présidence, qui entend également contester les résultats. Et Maryse Narcisse qui entend mobiliser ses partisans à travers les rues, mais pas par devant le tribunal électoral national.
Tom Dumont, rédacteur en chef à la radio Signal FM, nous parlait de Port-au-Prince.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'influence de Fidel Castro sur l'Afrique après la récente disparition de l'ancien président cubain. Héros pour certains, les dictateurs pour d'autres. Le père de la révolution cubaine est connu pour avoir soutenu des luttes de libération sur le continent africain, particulièrement en Afrique australe. Que pensez-vous de son impact sur l'Afrique ? Le rapprochement États-Unis-Cuba prendra-t-il d'autres tournures avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.